RFI, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal Afrique avec Vincent Dublange. Bonjour Vincent.
Bonjour Marion, bonjour tout le monde.
Depuis 1h30, importer une voiture aux États-Unis coûte 25% plus cher.
Premier effet concret des annonces de Donald Trump hier soir, le président américain va y ajouter, à compter de samedi, 10% de droits de douane généraux pour quasi tous les pays dans le monde, avec quelques exemptions de produits. L'Afrique est tout autant frappée que l'Europe ou l'Asie. Washington, qui envoie par ailleurs deux émissaires en tournée en Afrique centrale pour discuter paix, sécurité et gros sous. Cela commence par Kinshasa aujourd'hui. À la une également, Médecins sans frontières qui demande un corridor humanitaire pour Walikale Centre dans le Nord Kivu, toujours sous contrôle du M23. On continue aussi d'entendre les motivations des 8 candidates et candidats à la présidentielle gabonaise. Le journal des sports également, dans 10 minutes, les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine et la suite de la phase de groupe de la CAN U17 au Maroc, le Cameroun déjà dos au mur. La réalité demeure dure à encaisser ce matin pour de nombreux pays dans le monde. Afrique comprise, les États-Unis vont donc bien faire bondir les droits de douane qu'ils demandent pour les produits importés chez eux, plus 10% pour tout le monde. Effectif dès samedi 4h temps universel. À ce chiffre, d'autres hausses tarifaires vont être appliquées rapidement par la suite. Elles concernent 57 pays, dont 20 africains. Le président américain espère ainsi remodeler le commerce mondial au profit de son pays. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Il l'annonçait depuis des semaines, il l'a fait pour Donald Trump, ce qu'il appelle le jour de la libération et l'une des journées les plus importantes de toute l'histoire des États-Unis.
C'est notre déclaration d'indépendance économique. Depuis des années, les citoyens américains qui travaillent dur étaient laissés de côté, alors que d'autres nations devenaient riches et puissantes, et ce, largement à nos dépens. Mais c'est maintenant à notre tour de prospérer et ainsi d'utiliser des milliards et des milliards de dollars pour réduire nos impôts et notre dette publique. Et cela va arriver très vite.
Et Donald Trump de brandir un tableau qui détaille les droits de douane qu'il impose sur les produits de toute une liste de pays. C'est 10% minimum et parfois plus en fonction des barrières douanières imposées par ces pays, sans que personne ne comprenne vraiment comment tout cela est calculé. 34% pour la Chine, 26% pour l'Inde, 20% pour les pays de l'Union Européenne, 21% pour la Côte d'Ivoire et même 50% pour le Lesotho. Dans cette liste, on note les absences du Mexique et du Canada, particulièrement visées ces dernières semaines, mais aussi celles de la Russie. Enfin, à ceux qui voudraient négocier, Donald Trump conseille de commencer par faire baisser leurs propres barrières douanières. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et parmi les hausses tarifaires, on notera côté Afrique un bond de 11% pour la RDC, 13% pour le Tchad, 17% pour la Zambie, 32% pour l'Angola, 40% pour Maurice ou encore 47% pour Madagascar. Certaines catégories de produits ne sont pas concernées, les lingots d'or, les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, le cuivre, le bois de construction, des produits énergétiques ou encore des minéraux introuvables sur le sol américain. On continue d'y revenir largement ce matin sur RFI, décryptage, analyse, interview et déjà un gros dossier assuré par notre rédaction numérique sur l'appli RFI ou le site RFI.fr. Et nul doute que de ce sujet, il sera question aujourd'hui à Kinshasa, plus 11%, je le disais, de taxes à l'importation en tout dans les prochains jours, mais a priori des exemptions, notamment sur certains produits miniers, donc tout cela restant bien sûr à éclaircir. Le conseiller Afrique de Donald Trump, en tout cas, est arrivé hier soir dans la capitale congolaise, Massad Boulos. Première étape pour lui avant le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Au menu, économie et sécurité, Pauline Azidi.
Récemment nommé, c'est donc en RDC que le nouveau conseiller fait son premier déplacement sur le continent. Ça dénote un intérêt et ou une urgence de la situation, estime-t-on, du côté de la présidence congolaise. Et Massad Boulos n'est pas arrivé seul, puisqu'il est accompagné de la sous-secrétaire d'État américaine Corina Sanders. Au programme de cette visite, nous sommes obligés de parler de la guerre, explique un proche du président Tshisekedi. La situation à l'Est sera donc au cœur de l'entretien que le chef de l'État doit accorder aux deux représentants américains. Mais il sera aussi question de business, ajoute notre source. Il faut notamment évoquer le corridor de Lobito, ce projet porté par l'ancienne administration Biden qui prévoit la construction d'une ligne ferroviaire pour relier la Zambie à l'Atlantique via la RDC et l'Angola afin d'exploiter les ressources minières. Mais tout va ensemble, nuance un proche du dossier, puisque ce genre de projet ne peut fonctionner qu'avec la sécurité. Une allusion au partenariat minier en discussion entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis pourraient apporter une aide à la sécurité en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le pays. Polinasie Di Kinshasa, RFI.
Et qui est donc Massad Boulos, homme d'affaires américain né au Liban, installé au Nigeria et beau-père de la fille de Donald Trump? Son portrait est à lire sur l'appli RFI, signé Christina Okello. Dans l'est de la République démocratique du Congo, retour ce matin à Walikale Centre, dans le Nord Kivu. Toujours entre les mains de l'AFC M23, hier encore, des combats étaient signalés autour de la cité. Le personnel de Médecins Sans Frontières y est bloqué depuis 2 semaines. C'est aussi le cas de plus de 700 déplacés qui ont trouvé refuge dans l'hôpital général de la cité, Walikale Centre. Coupé du monde, MSF alerte ce matin par la voix d'Imen Ben Hoffman, sa coordinatrice locale.
Ça a commencé depuis le 19 mars qui atteint la ville en piégeant les personnels de Médecins Sans Frontières, nos personnels à la base et à l'hôpital. Et depuis ce jour-là, la situation a continué à se détériorer. Des violences ont gravement affecté les activités de soins, de santé. On parle de plus que de 80% de population a pris fuite dans la ville en entendant des tirs d'artillerie et qui craignent l'hostilité. Au niveau de l'hôpital, on parle de plus que 700 personnes déplacés qui prend refuge à l'hôpital général de Walikale, et ce qui accroît la pression sur les ressources médicales qui sont déjà limitées. On fait un peu la situation par rapport à notre équipe qui doit suspendre les activités médicales lorsque ces activités éclatent et ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité. Et on mentionne que la sécurité de notre personnel et nos patients est notre priorité absolue.
Les propos recueillis par Passion Ligodi.
Bangui 99.8 FM.
Une bonne nouvelle pour vous qui habitez dans la capitale centrafricaine ou dans toute autre ville d'un pays membre de la CEMAC, la Communauté d'Afrique centrale, le Cameroun, la République du Congo, le Tchad, le Gabon ou la Guinée équatoriale. De nouvelles pièces de monnaie sont progressivement en circulation depuis hier, notamment de nouvelles pièces de 200 francs CFA. Et cela vient pallier un vrai manque de petites monnaies dans les 6 pays. Annonce faite hier à Bangui, au siège de la Banque de l'Afrique centrale, où les avocats centrafricains, de leur côté, protestent. Ils sont en grève jusqu'à mercredi prochain. Ils sont vent debout, en fait, contre des manquements, disent-ils, aux règles venant de la police, mais aussi du personnel politique centrafricain. Reportage Rolf-Steve Domialeu.
À l'entrée du palais de justice de Bangui, une dizaine d'avocats vêtus de toges noires avec un col blanc expriment dignement leur mécontentement. Empêchés par des officiers de police judiciaire de rencontrer ses clients, placés en garde à vue à l'Office central de répression de banditisme au CRB, Maître Arlette Sombo Dibélé dénonce une violation des droits de l'homme.
Nous nous battons pour que devant la barre, nous puissions défendre un client. Mais nous n'avons pas accès aux clients. On nous dit qu'ils sont interrogés. Les procès-verbaux sont même déjà diligentés vers le procureur qui a déjà requis l'ouverture d'une information. On va aller plaider quoi si on ne suit pas la procédure de bout en bout?
Ce mécontentement entraîne le blocage des activités judiciaires. Le constat est alarmant pour Salomon, dont le dossier en instruction est provisoirement suspendu.
Mon frère qui a été injustement arrêté pour détournement de fonds est en prison. Il attend l'issue des enquêtes. Je suis triste parce que les avocats ne travaillent pas et le processus est suspendu pour une semaine.
Réuni en assemblée extraordinaire, le conseil des avocats exige le respect des droits de la défense. Jean-Louis Opalaya est bâtonnier de l'ordre des avocats du Centrafrique.
Les avocats ont décidé de faire des sittings tous les jours pour attirer l'attention de la plus haute autorité du pays. Mais pourquoi on doit refuser de recevoir les avocats? Et pourtant, les avocats doivent contribuer à ce que la justice soit rendue.
Selon une source au ministère de la Justice, une rencontre est prévue dans les prochains jours entre le conseil des avocats et le ministre d'État à la Justice. Rolf-Steve Domialeu, Bangui, RFI.
Il est 6h39 à Bangui comme à Libreville, où l'on continue de donner la parole à chaque candidat à la présidentielle du 12 avril au Gabon. Ils sont 8, dont une femme, et c'est elle qui nous explique ce matin pourquoi elle a franchi le pas. Écoutez, Zenaba Ninga Shanning, elle a 36 ans, elle a lancé plusieurs entreprises et plaide pour le secteur privé.
Déjà, ce serait une nouvelle classe politique, une personne qui est totalement différente du système, qui n'a ni appartenu au système PDG, ni au système actuel. C'est de dire aux Gabonais qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle classe politique qui se met en place, parce qu'ils ont réellement des convictions pour le Gabonais. Et de dire aux Gabonais qu'aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle personne qui s'est levée et on va changer les conditions de vie des Gabonais pour qu'ils soient plus épanouis dans leur pays. Un pays aussi riche ne peut pas avoir autant de pauvres. Pour mon programme, je pense qu'il faut arrêter d'assouvir les Gabonais. Il faut arrêter de rendre les Gabonais pauvres, mettre des mécanismes en place pour pas justement avoir des gens qui ont été mis volontairement comme ça dans la souffrance. Je pense qu'il faut développer le secteur privé. Vous savez, aujourd'hui, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde à la fonction publique. Il faut savoir que la fonction publique aujourd'hui, même si on met des mécanismes pour embaucher, ils ont essayé d'intégrer beaucoup de monde dans la fonction publique, mais ça ne marche plus. Il faudrait mettre des possibilités au pays, chercher des investisseurs, trouver des Gabonais sur place capables, justement, d'ouvrir des entreprises privées pour embaucher le maximum de Gabonais.
Propos recueillis par François Mazet. L'intégralité des interviews sont à retrouver chaque soir à 18h30 temps universel dans Afrique Soir, 19h30 de Libreville, et on mettra tout ça en ligne pour un compte-rendu global sur RFI.fr, bien sûr. Yoweri Museveni est attendu à Djouba ce jeudi. Le président ougandais vient dans un contexte de crise aiguë au Soudan du Sud, avec un accord de paix et de partage du pouvoir plus que jamais sur un fil. Le vice-président Riek Machar est toujours en résidence surveillée. Parallèlement à cette visite de Yoweri Museveni aujourd'hui, une délégation de sages de l'Union africaine est sur place, avec notamment l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye. Mais pour l'instant, rien n'a filtré en termes d'avancée sur place. Eux sont à Moscou à l'invitation de leur homologue russe, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger. Ils viennent parler sécurité, mais aussi économie. Ils viennent notamment demander un coup de pouce pour lancer leur banque régionale d'investissement. Un mot du Sénégal, où 146 députés ont voté pour la loi d'interprétation de l'amnistie accordée l'an dernier aux auteurs d'infractions lors des manifestations de 2021-2024. Loi adoptée après une journée très très longue et très très tendu, que vous habitiez au Sénégal ou pas. Que vous inspire cette loi ? On attend vos avis. Tout à l'heure, vos avis dans Appel sur l'actualité. On va terminer ce journal au Cameroun, où une centaine d'artistes a effectué un sit-in hier devant la primature pour réclamer leur droit d'auteur à la chaîne publique CRTV. Près d'un milliard de francs de CFA tout de même. Reportage RFI Yaoundé, Richard Onanena.
La mélodie est peut-être belle et les revendications formulées par les artistes sont claires. Assis en face des locaux du Premier ministre, les compositeurs et interprètes réclament le paiement de leurs droits d'auteur par la télévision publique, la CRTV. Athée Bazor préside la Société camerounaise de droits d'auteur.
Ils ont décidé de venir voir le chef du gouvernement pour lui présenter leur situation. Voyez comment ils sont malades. Regardez les grandes icônes de notre musique qui n'ont rien.
En août 2024, les artistes avaient déjà investi l'esplanade du ministère de la Communication de René Sadi, qui préside aussi le conseil d'administration de la CRTV. Depuis cette date, il ne s'est rien passé pour les artistes. La chaîne publique dit avoir versé plus de 300 millions de francs CFA à la CMC, une société de droits d'auteur qui a depuis perdu son agrément. Pour lui de Koum, artiste musicien, ils sont les uniques perdants de cet imbroglio.
Il y a déjà 4 correspondances du secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo, sur haute instruction du président de la République, Paul Biya, qui ont été adressées à M. Charles Ndongo de payer l'argent et de le virer dans le compte de dépôt spécial. Si on ne respecte plus les instructions du président de la République, où allons-nous exactement?
Le président de la SONACAM a pu rencontrer le directeur du cabinet civil du Premier ministre et les musiciens attendent désormais des actes concrets pour que les 850 millions de francs CFA le soient versé. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et merci de vous réveiller dans la capitale politique camerounaise sur le 105.